Vous écoutez RMC. RMC.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque jour pour les meilleurs moments d'Estelle Midi. J'espère que vous passez tous un excellent été. En tout cas, nous, on va tout faire pour vous informer, vous étonner et vous divertir avec le best-of de l'émission. Le meilleur d'Estelle Midi, c'est tout de suite. Le coup de blues du jour.
Mes enfants, j'ai pour mission de vous transformer en bachelier. D'aucuns diront mission impossible. Je relève le défi et je gagnerai.
Sans cas, Julien, recadlé.
Ce coup de blues du jour, eh bien, c'est celui des étudiants à bac plus 5, considérés comme le Graal il y a encore quelques années. Les longues études ont de moins en moins la cote, débouchés incertains, étudiants trop nombreux, chômage en hausse. Avoir un bac plus 5, aujourd'hui, Charles, ce n'est plus du tout l'assurance d'avoir un super boulot bien payé.
Ah oui, c'est ce que montrent les derniers chiffres de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Quand on interroge en 2025 les jeunes à bac plus 5, un an après l'obtention de leur diplôme, seuls 70% ont trouvé un emploi salarié. C'est 2 points de moins qu'en 2020. 4 points de moins qu'en 2023. En clair, l'insertion des jeunes diplômés à bac plus 5 est de plus en plus complexe. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux. Le nombre d'étudiants a doublé en 40 ans et c'est encore plus vrai pour les bac plus 5. Ils sont 6 fois plus nombreux aujourd'hui, chaque année, à sortir des grandes écoles ou des universités. 6 fois plus nombreux que dans les années 80. Tout le monde veut décrocher un master à l'université ou bien un master, comme le proposent de plus en plus d'écoles privées. Pas toutes reconnues par l'État, des formations privées de qualité très inégale selon France Université. Et selon l'un des experts cités par Le Figaro aujourd'hui, pour faire certaines écoles, il suffit de payer son diplôme, car certains établissements peinent à remplir leur promotion. En permettant à tout le monde d'avoir un master, on a détérioré le véritable niveau d'études. Cela crée des frustrations chez les jeunes qui sont persuadés qu'ils peuvent avoir un poste de cadre bien rémunéré. Seule solution, selon l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau, redorer le blason des niveaux d'études inférieurs tels que les bac plus 3.
Alors, faut-il en finir avec le bac plus 5? Allez-vous continuer à pousser vos enfants à faire de longues études? Jacques Legros, vous avez un bac plus combien, Jacques?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah ouais, wow. Ok,
chemin file. Non, mais c'est un petit peu. Les études, il faut savoir ce qu'on en espère et ce qu'on en attend. Si c'est pour être médecin, oui, il faut faire de longues études, forcément, et ça, et d'autres professions, d'ingénieurs et autres. Maintenant, si c'est pour faire psycho ou sociaux, parce que on n'a pas pu trouver autre chose, ou pour qu'on n'avait pas ni de souhait particulier, ni d'envie particulière, franchement, ça sert à rien. Aujourd'hui, pour ne pas avoir le bac, par exemple, avant ça, il faut quand même avoir sacrément bullé pendant... pendant ses études secondaires, oui. Parce qu'aujourd'hui, bon, le bac s'est quand même ouvert un peu, mais on l'a voulu, on a voulu une génération qui est dans laquelle tout le monde ait le bac. Ben, finalement, on l'a dévalorisé. Et puis les études, ben, c'est pareil, quoi. C'est aujourd'hui, je crois qu'il vaut mieux avoir un bon métier, y compris manuel, dans lequel on va bien gagner sa vie, dans lequel on va trouver du travail et être heureux, et que de faire 6 ans de psycho ou de sociologie, c'est ridicule.
Oui. Alors justement, Pierre Rondeau, vous êtes économiste, vous êtes prof en fac. Est-ce que, pour vous qui êtes prof, franchement, ça vaut encore quelque chose d'avoir bac plus 5?
Alors, ça va dépendre du master, bien évidemment. Et c'est facile de répondre ça. Évidemment qu'il y a des masters qui sont extrêmement prestigieux et sélectifs. Et là, c'est bien évidemment valorisant et valorisable. Mais Charles l'a rappelé, il y a malheureusement eu cette démocratisation qui a été voulue, effectivement, par certains représentants politiques. On voulait que tout le monde ait le bac et tout le monde soit diplômé du supérieur, sans se poser la question en amont, comment faire en sorte qu'il soit bachelier et qu'il soit diplômé. On a dit, il faut qu'il l'ait. Il faut qu'ils aient le bac. Donc déjà, le niveau a été réduit. Quand on compare le programme du bac il y a 30 ans à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Maintenant, on donne le bac à des gens qui savent à peine écrire, qui ont des très grosses lacunes en lecture, en orthographe, en grammaire, en mathématiques, et qui arrivent dans le supérieur, et qui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées à but lucratif qui vont promettre monts et merveilles aux étudiants, tout le monde a le sentiment de pouvoir sortir de là diplômé, et en ayant l'impression d'avoir un diplôme, d'avoir un métier, et d'avoir un très bon salaire. Mais c'est faux. Ça a été dit, ça a été rappelé. Dès lors que quasiment tout le monde a un master, le master ne vaut plus rien. Je répète encore une fois, c'est important d'avoir un master. Mais il y a une différence entre un master dans une très grande
école. C'est important pour
quoi, en fait ? C'est important quand on est diplômé d'une grande école sélective qui a une véritable valeur. Moi, je peux vous citer des masters dans des grandes universités qui sont extrêmement prestigieux et qui assurent évidemment un emploi et un très bon salaire. Mais il y en a beaucoup d'autres à côté qui ne servent strictement à rien. Ou là, Jacques parlait des diplômes de sociologie ou de psychologie.
Parce qu'on parle toujours de ça, oui.
Alors, en socio, c'est...
On parle aussi de marketing communication.
C'est surtout, voilà, moi, je mets en avant tout ce qui est marketing, communication, et il y a des diplômes en alternance. Déjà, l'alternance aussi, ça a impacté, parce qu'on le modèle de l'alternance, c'est que la boîte paye le diplôme. Donc, au final, les étudiants sont diplômés sans vraiment avoir travaillé.
C'est des écoles à 10 000 euros par an, et en fait, qui vous assurent quasiment d'avoir un diplôme, mais si le diplôme vaut rien...
Dès lors que vous travaillez, vous avez un diplôme. Donc, ils viennent en cours et travaillent pas.
Karine Galli, bac plus combien ?
Bac plus 3.
D'accord.
Donc c'est peu par rapport à une école de journalisme, mais effectivement, comme dit Jacques, en fait, il y a des métiers où tu sais très bien à quoi ça va amener. Voilà, tu fais une école d'ingénieur, tu es ingénieur. Tu fais une école d'architecture, tu es architecte. Mmh. Évidemment, les métiers du secteur de la santé. Et puis, il y a aussi des études. Parfois, tu demandes à quelqu'un, alors qu'est-ce que tu fais comme étude ? Et là, il te fait deux lignes.
Et tu dis, en anglais.
Voilà, ouais. Et tu te dis, mais c'est-à-dire, ça va aboutir à quoi ? Quel sera le métier que tu vas exercer plus tard ? En fait, c'est tellement brouillon fourre-tout que là, tu te dis déjà qu'il y a un loup. Et en fait, malheureusement, dans ces secteurs-là, t'as notamment les métiers de l'art, les métiers des langues, les métiers, effectivement, des lettres, qui sont... qui passionnent des gens, mais où tu n'as très peu de débouchés. Et quand tu leur demandes, mais quel est ton métier plus tard, quel est ton souhait, eh bien, ils sont incapables de réellement répondre à cette question parce que ils ont commencé des études en n'ayant pas une idée claire, et ça, on peut le comprendre, mais malheureusement, le cursus qu'ils vont faire va pas aboutir à une réponse claire. Et c'est ça, en fait, le problème. Il y a forcément, en fait, je pense, avant de t'engager dans une voie, il faut aussi que tu regardes les débouchés. Il y a plein de secteurs qui sont extrêmement saturés, donc ça sert à rien d'aller là-dedans.
École de journalisme aujourd'hui, voilà. Quoi.
Et il y a
c'est vrai, mais par contre,
il y a plein de métiers où les études sont longues parce que évidemment il faut un savoir et il n'y a pas de problème dans ce secteur-là. Par exemple, les métiers de l'ingénierie se portent plutôt bien. Il y a
la robotique, ça va aussi.
Voilà, mais il y en a plein. Donc en fait, c'est tous ces métiers un petit peu nébuleux où quand la personne te dit je fais ces études et tu comprends pas à quoi ça mène.
Ah bah tu vas au salon de l'étudiant, le salon de l'étudiant spécial école de commerce. Alors là, je te mets au défi de comprendre.
Ah oui.
Je veux dire, ne serait-ce que les titres des masters, bachelor, etc. C'est et quand tu leur demandes, mais d'accord, mais ça mène à quoi ? Et comme tu le disais, mais il y en a pas un qui est capable de te dire juste un nom de métier que tu connais, enfin que nous, personne de plus de 40 ans.
Mais dès que c'est compliqué, c'est louche en fait.
Je suis d'accord. Mais journaliste, quand tu voulais être journaliste il y a 20 ans, tu faisais des écoles en 2 ans. Bah aujourd'hui, il y a des écoles en 5 ans. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment on apprend en 5 ans de journalisme. Enfin, genre en 5 ans d'école de journalisme.
Et t'en as une dizaine.
C'est sur les terrains que tu apprends le plus.
Aussi, mais ils forment plus d'étudiants qu'il y a réellement de postes dans le métier.
Vu qu'il y a plus de postes,
voilà.
Un numéro d'école du tout.
Pour les écoles de journalisme. Oui, mais t'as plein d'écoles de journalisme privées.
Qui coûtent très cher.
Et on n'est pas obligé de faire une école pour être journaliste.
Bah aussi.
On est ensemble.
Un exemple.
Voilà. Bac plus combien, Charles ?
Bac plus 3, moi j'aurais pu être un des étudiants de Pierre parce que j'ai fait la fac d'économie à Paris 1 et arrivé à la fin de ma troisième année, faut le dire aussi, la fac, l'université, c'est pas fait pour apprendre un métier. Mais non, mais c'est pas fait pour avoir un job à la fin de la fac, c'est fait pour apprendre des choses. Mais non, mais c'est vrai, c'est fait pour former des cerveaux, mais pas pour apprendre un job. Et moi, arrivé à bac plus 3 d'économie, j'ai dit, mais au fait, là, ça fait 3 ans, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite pour moi ? On m'a dit, bah, soit économiste, soit prof de lycée. J'ai dit, allez hop, ciao,
oui,
merci, au revoir.
Voilà,
je voulais pas devenir Pierre Rondeau.
Voilà.
Combien, Pierre ?
Moi, j'ai pas terminé ma thèse, mais j'ai 3 masters.
Ah oui, ok, bon bah. Ah oui, je suis la moins diplômée de.
Combien ?
Moi j'ai 2 bacs plus 2. Bah ça fait pas un bac plus 4. Hein.
Ah bon
ça, non, non,
on
non, non, non,
on peut l'additionner.
Non.
2, ça a toujours fait 4.
On a beaucoup de parents qui nous appellent sur ce sujet. On a Didier qui nous appelle de Saint-Mamès en Seine-et-Marne. Il est consultant pharmaceutique. Bonjour Didier.
Oui, bonjour à tous.
Didier, consultant pharmaceutique, bac plus combien ?
Bah 5.
Bac plus 5, d'accord. Et vous avez 3 enfants, Didier. Est-ce que vous allez les pousser à faire de longues études ?
Absolument pas.
D'accord.
Voilà. Avec ma femme, on s'est toujours entendu là-dessus, vu notre parcours à nous, vu ce qui a motivé en fait nos études à nous, qui venait surtout de la motivation de nos parents. De nous pousser, ma foi, non. Et puis aujourd'hui, en fait, ce dogme de pour réussir, il faut faire de longues études, à aujourd'hui, il a plus cours, quoi. Il est, voilà, il est plus utilisé, il est plus. Je pense qu'il ne marche plus, en fait.
Mais vous, vos enfants, vous allez. Enfin, après, ils feront bien ce qu'ils veulent, j'imagine, mais si vous deviez les pousser, ce serait vers quoi ?
Ce qu'ils ont envie de faire, mais quelque chose de sain et faire des études, mais pas forcément longues. Par
D'accord.
exemple, notre fille qui là, elle passe son bac cette année, elle se dirige vers un BTS tourisme.
Super. Voilà. Donc 2 ans.
Donc, Donc 2 ans, tout à fait. Mais je veux dire, le profil qu'elle a, parce que voilà, on connaît notre fille, on voit comment elle travaille et tout. Peut-être que au bout de ce BTS, elle va vouloir faire autre chose encore. Donc on sait qu'elle a, quand elle a un objectif, je veux dire, elle va tout faire en fait pour l'atteindre. Donc si d'un coup on lui dit ah ben non, il faudrait faire ceci pour accéder à telle fonction, ben elle va le faire. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas moi qui veux lui dire non, mais il faut que tu fasses une INSEAD, faut que tu fasses un truc de management pour diriger un hôtel, enfin un truc de tourisme. Enfin non. BTS, il y a des BTS très très bien. Voilà.
Exactement. Et puis en plus, ça lui fait un diplôme, un bac plus 2, et ça c'est fait. Et puis après, effectivement, il vaut mieux terminer son BTS que d'arrêter en cours de bachelor. Merci beaucoup Didier, en tout cas d'avoir été avec nous. Ça nous soulève un point important, c'est aussi que les jeunes aujourd'hui, ils savent moins ce qu'ils veulent faire que notre génération. Et donc souvent, ils bifurquent, Jacques.
Oui, ils bifurquent, ils savent pas trop, ils hésitent, ils testent, ils reviennent en arrière. Le mieux, mais ça je sais bien que c'est l'idéal, c'est d'avoir un gamin qui a une passion, qui sait exactement ce qu'il veut et qui adapte les études à sa passion. Bon, ça, là, dans
encore faut-il que sa passion puisse lui garantir à la fin de ses études un emploi.
Enfin, ça, tu le sais après.
Oui, bien sûr, mais si t'es passionné par le journalisme, malheureusement, c'est pas garanti.
Moi, je pense c'est pas ça.
Et si t'es passionné par le football, mais tu joues toujours en équipe 4 de ton patelin à 17 ans, ça n'ira pas non plus.
Après, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé en unité de physique chimie. Bon, vous voyez bien que je ne suis ni physicienne.
Ah oui. Et ben, ah oui.
Je suis partie. Et je suis partie après 2h30 de cours.
Ah oui.
C'était très rapide. Mais j'ai tout de suite bifurqué.
À quel moment vous êtes dit
j'étais passionnée de physique chimie et c'était ma meilleure matière. C'est incroyable. Je pensais qu'elle était bonne juste en pâte à modeler. Donc j'étais forte en physique chimie, c'était ma matière fétiche, ma passion. Et donc mes parents m'ont dit Karine,
jusqu'au bac,
voilà, IUT physique chimie, c'est une évidence. Et c'est vrai qu'après 2h30 de cours, j'ai senti que c'était pas le bon choix, donc j'ai très vite bifurqué.
Mais 2h30 quand même.
Ah bah oui, vous avez très bien
la première pause.
Est-ce que c'était une école que vos parents avaient payé 10 000 euros l'année?
Non, là, pour le coup, c'était en Seine-Saint-Denis en plus, donc j'avais quand même un changement radical. Et l'IUT, je me suis trouvée complètement perdue et à la première pause, je suis partie. Voilà.
Mais écoutez, très bien. Très belle bifurcation. On a plein de messages sur le WhatsApp, Charles.
Marie qui nous dit, moi j'ai un bac plus 5, et ben je gagne beaucoup moins que mon mari qui lui a un simple bac pro. Il a réussi à trouver du boulot tout de suite dans son domaine, alors que moi j'ai dû jongler entre plusieurs petits boulots avant d'enfin trouver dans mon domaine. Ça a été une vraie galère, donc on ne poussera pas les enfants à faire de longues études. Au contraire, nous dit Marie. Giacomo nous écrit, mon épouse et moi-même sommes psychologues, et au vu de l'augmentation du mal-être dans la société, j'aimerais dire à Jacques Legros que c'est malheureusement un boulot d'avenir, et vive les amphis, le psychologue.
Oui, mais il y en a trop.
Giacomo. Sébastien lui nous dit, tous les jeunes ont maintenant un bac plus 5. Je le remarque dans mon administration. Un simple bac plus 3 aurait suffi, mais ils veulent tous leur bac plus 5 alors qu'ils auraient beaucoup mieux trouvé dans des filières manuelles, électricien, chauffagiste, soudeur, boucher, boulanger. Voilà les métiers dans lesquels on recherche, nous écrit Sébastien. Et puis le message de Micha qui nous dit, le bac plus 5 seul ne suffit plus. Il faut sortir d'une grande école pour avoir une vraie valeur sur le marché de l'emploi. Un simple bac plus 5 ne garantit plus du tout un boulot.
Anthony est avec nous, il nous appelle de Nevers, il est chargé d'affaires. Bonjour Anthony.
Bonjour Estelle, Karine, Pierre, Jacques et Charles.
Bonjour. Oh, bonjour. Très belle mémoire Anthony, ou belle vue si vous nous regardez sur RMC
Story. Le quinté dans l'ordre.
Anthony, est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à pousser nos enfants à faire de longues études, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7?
Alors je suis conscient qu'on n'a pas tous le même niveau ni les mêmes capacités pour apprendre, mais bien sûr qu'il faut pousser nos enfants à étudier et à apprendre. Hein. Une nation, elle ne réussit que si elle est éduquée, hein. Sinon ça s'appelle l'anarchie. Hein. Et sinon, moi, ma fille qui est à l'école, je lui dis quoi, tout ce qu'elle est en train d'apprendre en ce moment, que ça sert à rien. Donc elle sait ce qu'elle veut faire, elle va être née plus tard. Donc c'est une niche, et je suis en train de lui faire comprendre qu'il y aura des maths, de la physique, de la chimie, et qu'elle s'en sortira pas comme ça. Hein. Et donc oui, il faut pousser nos enfants à apprendre. On cherche quoi à travers les études, à avoir un boulot ou à réussir à notre vie? Parce que effectivement, on peut tous avoir un boulot avec un bac pro. Hein. Moi, je suis dans le soudage. Effectivement, on recherche beaucoup. J'ai des copains qui sont dans l'atelier juste avec un bac pro. Ils ont le même salaire que moi, sauf qu'à 5 heures, faut qu'ils soient au boulot. Ils chauffent du métal à 1500 degrés pendant 8 heures. Et ils respirent des fumées qui sont pas très très jolies. Donc effectivement, il faut pousser nos enfants à réussir au mieux leurs études.
Je suis entièrement d'accord avec vous, Anthony. Mais parfois, vous avez effectivement des gamins comme l'a dit Charles, qui pourraient s'arrêter à bac plus 3 et qui finalement poussent pour 2 ans supplémentaires, mais on sait pas trop pourquoi. Et donc ils entrent plus tard sur le marché du travail, peut-être à un moment où il y a moins de boulot qui leur correspond. C'est pour ça que est-ce que c'est vraiment, je veux dire, une fin en soi d'avoir aujourd'hui un bac plus 5, pas sûr. Et votre fille, elle veut être née, et c'est un métier extraordinaire. Alors, il y a peu de place, hein, bien sûr, Anthony, et on lui souhaite évidemment de réussir. Mais si elle ne réussit pas, Anthony, il faudra qu'elle fasse autre chose. Et peut-être qu'elle s'épanouira dans un métier où il n'y a pas beaucoup d'études.
Bien sûr que j'essaie de lui faire comprendre que ça ne sera pas la seule solution et qu'il faudra qu'elle pense à autre chose. Mais si ceux qui ont bac plus 3 vont jusqu'à bac plus 5, c'est qu'ils ont les capacités, c'est qu'ils ont l'envie, c'est qu'ils veulent apprendre et c'est ceux qui réussiront mieux que les autres, pour moi.
Alors, on va prendre l'avis de Pierre, parce que Pierre, il est prof en fac, justement.
Anthony a dit un truc, un élément intéressant, et vous l'avez rappelé aussi en disant que est-ce que le bac plus 5, c'est une fin en soi? Ce qui compte, c'est pas d'avoir le diplôme. Ce qui compte, c'est de savoir. Ce qui compte, c'est le capital humain. Ce qui compte, c'est les connaissances. Si derrière, on n'est pas capable d'inculquer les connaissances nécessaires aux enfants et aux lycéens au bac, et on arrive avec des bacheliers, des étudiants du supérieur, qui, parce que moi, j'en suis témoin tous les jours, ont du mal à écrire, ont du mal à maîtriser le langage, ont du mal en mathématiques, dans des calculs extrêmement simples et simplistes, dans ma filière d'économie, c'est là qu'il y a un problème. C'est pas la question, ah oui, faut-il un bac plus 5? On pourrait avoir des bacs plus 5 et des diplômés qui pourraient avoir de très bonnes connaissances, de très bonnes compétences. On a aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est le nivellement vers le bas de la connaissance française. L'éducation nationale, le supérieur, tout ça sont des champs qui sont abandonnés. On a encore retiré, très rapidement, on a encore retiré 600 millions d'euros au budget du ministère de l'enseignement supérieur, mais on veut diplômer, on veut former plus de gens avec moins de moyens. Donc forcément, on leur donne, et ils n'ont pas les connaissances.
Mais peut-être qu'un bac plus 5 d'aujourd'hui, ça vaut un bac plus 3 d'il y a 20
voir
ans.
Voir un bac,
exactement, Jacques Legrand.
Et puis n'oublions jamais, c'est aussi une des tares de la France, qu'un diplôme, quel qu'il soit, marque le début d'un apprentissage, d'une expérience, et qu'au bout d'un certain nombre d'années, c'est l'expérience qui a de la valeur, plus que le diplôme. Moi, mes diplômes, je ne m'en suis jamais servi. Jamais. On ne me les a jamais demandés. Jamais.
Et moi, on ne me les a jamais donnés, je crois. Je sais même pas
où ils sont.
Je suis incapable de vous dire où ils sont.
Ah, t'aurais voulu avoir le diplôme encadré au mur.
Je ne vais pas l'encadrer, un bac plus 2, non. Enfin, je veux dire, il y a un moment
mais
où.
Mais ça, il faut le dire aux jeunes aussi.
Je préfère encadrer mon premier 50 mètres en natation, tu vois. Enfin, je veux dire, un truc.
Chamois d'or.
Chamois d'or.
Mais il faut le dire aux jeunes. Une fois que vous aurez votre diplôme, 3-4 ans après, votre nouveau recruteur ne vous demandera plus votre diplôme. Il regardera ce que vous avez fait, votre expérience. Nous ne demande plus jamais nos diplômes. Passé un certain âge, à 28-30 ans, tout le monde s'en fiche des études que vous avez faites. Ce qui compte, c'est l'expérience, ce que vous allez faire immédiatement après. Et parfois, il vaut mieux, au bout de 2 ans d'études, se lancer dans une carrière et acquérir de l'expérience plutôt que passer 4, 5, 6 ans sur les bancs d'une fac pour finalement ensuite galérer.
Non, mais c'est exactement ça. On valorise pas assez en fait la pratique, parce que vous voyez, ceux qui nous regardent à la télé, par exemple, ils ont une photo d'un amphithéâtre bondé. Moi, quand je suis arrivée à l'IUT, j'ai vu ça. J'ai eu un haut le cœur. Je n'étais jamais rentrée dans un amphithéâtre. Ça me paraissait immense. J'étais perdue. Je voyais tous les gens avec leurs ordinateurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou? Et finalement, après, j'ai fait une école de journalisme et mes parents m'ont dit, Karine, on te connaît quand même. Il faut que tu aies de la pratique. Et en fait, j'ai fait une école de journalisme où le matin, j'avais des cours, la théorie évidemment, et tous les après-midi j'étais sur le terrain et il y avait de la pratique. Et il faut en fait aussi s'adapter au caractère des élèves. Et moi, ça m'a passionné pendant 2 ans, parce que me retrouver toute la journée dans un amphithéâtre à écouter quelqu'un déblatérer des savoirs, c'est pas pour moi. Et mes parents le savaient, et moi aussi je le savais. Donc la pratique, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit valoriser en France et qui est pas très valorisé.
Vous êtes très très nombreux à nous appeler. On va remercier Anthony d'avoir été avec nous, et on sent nos auditeurs absolument passionnés en fait, et puis avec l'envie de nous raconter leur expérience.
Comme Sylvie qui nous dit, moi j'ai 58 ans, j'ai pas le bac, j'ai eu 2 enfants, bah tiens, 2 beaux exemples. Le premier, bac plus 2, BTS, il a trouvé immédiatement du boulot en un quart d'heure après son diplôme. Le deuxième, bac plus 5, architecte d'intérieur, bah 3 ans après, toujours pas de boulot. Voilà ce que nous dit Sylvie et Mélanie qui nous racontent, ma fille est en licence de com, et ben là elle veut changer d'orientation l'année prochaine. Elle constate qu'il n'y a aucun vrai débouché concret dans sa branche. Il y a trop de monde. Ce sont des filières bouchées où on n'apprend pas forcément ce qu'il faut pour trouver un boulot. Voilà ce que nous écrit Mélanie. Et on vous a posé d'ailleurs la question sur nos réseaux. Ces longues études, est-ce qu'on doit en finir avec le bac plus 5? Vous avez répondu oui À 65% quand même, hein, deux tiers indirects pour en finir avec les longues études.
Bah oui, réformer peut-être un petit peu tout ça, voilà tout simplement. Et puis pour que les étudiants soient heureux.
RMC.
Les meilleurs moments de Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser au chiffre du jour. Et ce chiffre, eh bien, c'est le 52. 52, c'est le nombre de départements qui sont repassés aux 90 km/h max sur les routes secondaires depuis 2019. La loi autorise les départements, justement, à en finir avec les 80 km/h, cher à Édouard Philippe. Mais le problème, Martin, c'est que c'est devenu l'anarchie et que plus personne ne sait à combien il faut rouler.
Parce que chaque département fait un peu à sa sauce. Et même au sein d'un département, eh bien, on n'a pas forcément géré la vitesse de manière uniforme. Certains ont passé tout le réseau routier à 90, quand d'autres l'ont fait uniquement sur certains tronçons en fonction de critères locaux, le trafic, le nombre d'accidents, la géographie, la densité de population. Par exemple, dans le Gers, 570 des 3560 km de route sont repassés à 90. C'est ce qu'on apprend dans le Figaro ce matin. Aujourd'hui, sur un réseau secondaire de 900 000 km, 60 000 sont déjà repassés aux 90 km/h partout en France. Il n'y a donc plus de règles uniformes, ce qui rend la lecture du réseau plus complexe, voire évidemment piégeuse pour les automobilistes. L'objectif de passer à 80 km/h en 2018, c'était de limiter le nombre de morts sur les routes, évidemment. C'est d'ailleurs le grand argument de ceux qui défendent les 80 km/h sur les routes. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Dans l'Eure, par exemple, département qui a repassé totalement aux 90 km/h, le nombre de blessés graves et légers dans les accidents a augmenté de 12% depuis 2018. C'est ce que nous dit également le Figaro ce matin.
Alors, pour ou contre un retour aux 90 km/h partout, Fred Hermel?
C'est fou comment une décision politique ridicule a failli provoquer une révolution.
C'est vrai. Bah, a provoqué une révolution.
Ah oui, oui, oui. Enfin, s'il y avait le prix de l'essence et les 80 km/h pour les gilets jaunes. Les voilà, gilets jaunes. C'est fou que ces gens totalement dogmatiques, totalement déconnectés du peuple, il y a quand même des conseillers, quand même des gens, des élus. Alors, il y avait un gros problème aussi avec Édouard Philippe, c'est qu'il n'écoutait pas ses élus. Moi, je connais plusieurs députés. Ils avaient tellement de députés qu'ils n'en avaient rien à foutre des députés parce qu'ils faisaient passer leur loi sans, je parle lors du premier quinquennat de Macron, et que les élus essayaient de le faire remonter. Moi, je me souviens d'un élu qui venait de Normandie, un député qui avait alerté en disant « ça va créer des problèmes », et il n'avait pas été écouté. Donc, c'est un gros problème. Oui, alors, bien sûr que tout le monde veut qu'on lutte contre la mortalité sur les routes. Enfin, je veux dire, faut pas être un imbécile. C'est simplement, il y a des contingences quotidiennes des gens. Oui, 10 km/h, c'est un problème pour plein de gens. Voilà, il vaut mieux rénover des routes pour qu'elles soient plus sûres, plutôt que de faire passer un. Voilà, c'est des genres de décisions totalement verticales du niveau national qui tombent sur le local. Moi, je vois la route nationale qui est à côté de chez moi, là, qui va d'Arras à Bapaume. En fait, moi, quand je revenais en voiture, j'étais toujours un peu perdu parce que je savais plus trop si c'était 80, 90.
Oui, le problème, c'est ça, c'est que tu sais jamais à combien tu dois rouler.
Voilà, et en fait, ça crée une sorte de distraction qui est pas bonne quand tu conduis.
Yael Mellul, en fait, est-ce que pour plus d'uniformisation, il faudrait revenir aux 90 km/h ou aux 80, mais en tout cas faire que toutes les routes soient pareilles, en fait?
Non, je crois pas. Je pense qu'il faut vraiment faire au cas par cas. Il appartient.
Ça ne l'était pas au départ.
Bah oui, mais il appartient. Le problème, il est très simple. Il s'agit de savoir si, en étant à 80 km/h, ça fait diminuer les accidents et ça fait diminuer la mortalité sur les routes. Voilà, il faut juste faire des études d'impact, répondre à cette question et agir en conséquence. Voilà, c'est tout. Faut pas faire de la politique n'importe comment. Enfin voilà, c'est très factuel. Est-ce que sur cette route-là, sur ces routes-là, il y a eu une diminution de la mortalité lorsque c'était à 80 km/h? Si la réponse est non, on revient à 90 km/h si ça facilite la circulation. Ben voilà.
Donc on va rechanger des panneaux, on va encore payer.
Mais oui,
ça a un coût, les panneaux.
Mais oui, Estelle,
ça a un coût, le panneau, la main d'œuvre.
Oui, mais Estelle, le problème, il vient de la décision en amont.
Bah oui.
Qui a été faite n'importe comment, sans étude d'impact aucun, et qui a occasionné.
Bah, j'ose espérer qu'Édouard Philippe, il y a eu une étude d'impact au moment où il a
proscrit les 80 km/h. La preuve que non, c'est qu'il y a 52 départements.
Enfin, il a dû quand même faire des projections, mais enfin, quand même.
Des projections basées sur quoi?
Enfin, il était Premier ministre.
D'accord, mais des projections basées sur quoi?
Sur, il y a peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que, enfin, j'ose espérer qu'il n'a pas fait ça au doigt mouillé.
La preuve que non, c'est qu'il y a 52 départements aujourd'hui qui reviennent sur cette décision.
Oui, mais ça peut être aussi pour faire plaisir aux automobilistes de la région.
région, tu vois, ça veut rien dire.
Mais c'est sûr que l'étude d'impact en amont, avant d'imposer les 80 km/h partout, je vois pas comment ils l'ont réalisé.
Bah, ils ont peut-être pu se dire que 80 km/h, il y avait moins de morts parce que la vitesse était moindre.
Enfin, regardez l'accident, si la vitesse est engagée, tu peux
Non, mais oui, parce qu'à travers un calcul mathématique, on peut parfaitement faire des projections et dire que plus tu augmentes ta vitesse, plus le risque d'accident augmente.
Oui,
c'est vrai.
C'est clair. C'est vrai.
Accident grave, c'est vrai.
Il fallait passer à 70.
C'est vrai. Mais maintenant, encore une fois, la question, soit c'est l'État d'en haut qui prend la décision pour tout le territoire sans demander aux élus locaux, soit c'est les départements qui décident où on aurait des parcelles de route à 80, ensuite à 90, et c'est la chienlit, on ne sait pas comment se débrouiller. Moi, limite, et je m'en amuse parce que je n'ai pas le permis, mais limite, j'ai envie de citer Louis Sarkozy, qui avait une proposition.
Limite, pardon, excusez-moi Pierre.
Oui,
excusez-moi.
Pierre Rondeau.
Vous, l'homme
Pierre
de gauche.
Rondeau va citer. Alors attention, breaking news. Pierre Rondeau va citer Louis Sarkozy, qui sur cette antenne à RMC avait proposé de supprimer le code de la route.
Bah oui, c'est vrai.
Si vous supprimez le code de la route, les gens finalement ne vont penser qu'à leur propre survie personnelle, donc vont faire gaffe. S'il n'y a pas de code de la route, s'il n'y a pas 80, 90, 110, 150, je sais que autrui, je sais que mon camarade, mon voisin, la voiture à côté de moi peut conduire comme un gros malade. Donc je vais faire gaffe. Et si tout le monde pense d'abord à sa propre survie personnelle, je vais vous citer une phrase très pompeuse, la somme des intérêts particuliers aboutit à la maximisation de l'intérêt collectif.
C'est extrêmement libéral, là, ce que
c'est
vous êtes en
train totalement
de...
libéral.
Qu'est-ce qui vous
là,
prend?
Je suis en train de perdre mon âme. Je me suis vendu à Louis Sarkozy.
Mais
la proposition,
le code pénal.
Si on en discute 5 minutes, et si on est sérieux, 30 secondes, juste 30 secondes, attendez, vous ne pensez d'abord qu'à votre propre survie. Vous n'allez pas rouler à 150 sur une parcelle départementale.
Certains le font.
Bah oui. Alors, si on admet
si
ça,
pas, si pas
moi ce que je mettrais en place, si je m'écoutais totalement et si j'avais tous les pouvoirs, ça serait effectivement l'anarchie, si on peut dire, sur le code de la route, mais en même temps, le délit routier, là c'est pas 1000 euros d'amende et c'est pas un an de prison. Hein. Le délit routier, c'est carrément peine de prison extrêmement
grave. C'est parce que tu ne conduis pas,
oui,
tu
j'allais
dis
te
ça.
Dire,
mais c'est
pas
pour ça. Je m'en amuse. Et peut-être que Louis Sarkozy non plus.
Je vais te dire, en tant que conducteur, moi j'ai mon permis en 1988.
Oui.
J'ai besoin de règles, parce que quand il n'y a pas de règles, et ben à un moment, tu dis, oh, c'est vrai, je suis en retard.
Moi, je le vois, à vélo, il n'y a pas de règles. Et au moment
où il y a
des règles à vélo, tu ne respectes pas.
Mais quelle honte. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'en Bretagne, il y a certaines routes à 70. Moi, je ne peux pas aller à plus de 50. Parce que vous dites, mais en fait, tu ne peux pas rouler à 70. C'est des routes dans les bois, c'est ultra dangereux.
Tu
as à peine la place pour doubler. Mais oui, mais ça veut dire qu'en fait, il y a un vrai problème de mettre, je veux dire, des 80, des 90. Parfois, je vous dis, il y a même des 70 qui ne sont pas adaptés. Et puis parfois, à 50, tu te dis, mais c'est une route qui devrait être à 90. Donc on a un vrai problème aujourd'hui de limitation en France.
Moi, je fais confiance en l'intelligence collective. Les gens arriveront à s'adapter.
Tu as tort. Quand tu vois 50... Oui, mais...
Je pensais avoir un petit fond de gauche.
Non, mais quand tu vois une limitation, tu fais plus gaffe, tu vas mettre le pied sur le frein, etc. En fait, ça te pousse à la vigilance. Si tu n'as aucune limitation...
La peur du gendarme, c'est essentiel.
C'est l'anarchie. Des messages sur le WhatsApp, Martin.
Jérôme qui nous écrit 06 12 84 84. 80 ou 90, peu importe, uniformisons tout ça. Voilà. Quand on traverse la France deux fois par semaine, on ne doit pas s'arrêter sans arrêt pour savoir dans quel département on se trouve et connaître la règle locale. Voilà ce que nous dit Jérôme. Et puis Michaud, le 80 idéologique, c'est ridicule. À la retraite, je ne prends plus l'autoroute. Traverser la France, c'est changer constamment de limitation de vitesse avec les véhicules actuels. 90, ce n'est pas forcément aller vite. Quand la route ne le permet pas, on limite.
Comme c'est vrai qu'on a changé de véhicule, les voitures aujourd'hui sont plus performantes et plus sécurisantes. On est avec Mathieu qui nous appelle de Saint-Éloi-de-Fourques. Dans l'heure, il est commercial. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Alors attendez, dans l'heure que je m'y retrouve là, c'est 80 ou 90?
Alors c'est 80 pour le moment.
D'accord.
Effectivement, voilà. Et puis, en fait, on alterne en permanence, 80-90. Je vous donne une idée pour avoir un exemple vraiment concret. Sur la portion de route entre Le Neubourg et Évreux, donc
oui.
Sur quoi à peine 30 kilomètres, on passe de 80 à 90 environ 4 fois.
Ah,
ouais. Donc c'est
deux. Il y a des radars ou pas, Mathieu?
Ah bah oui, bien sûr. Il y a des radars partout. Je vais même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que l'Eure, en fait, on a été un des départements précurseurs des véhicules avec radar embarqué. Vous voyez. Qui avait été confié à des entreprises privées.
Tout
et pile poil au moment des 80, c'est bizarre, toutes les autos ont poussé dans tout le département et on s'est fait saigner le porte-monnaie. Moi, je me posais une question quand même d'un point de vue pratique, c'est j'espère quand même que le département a conservé les panneaux 90 maintenant dans un entrepôt et qu'ils vont pas passer une commande publique assez folle.
Pas quoi.
Donc, voilà. Oui. Faut-il vraiment compter là-dessus, Mathieu? Je ne suis pas sûr.
à mon avis, ils ont été jetés. Hein.
Mais non.
Ah bah ça, on verra bien.
Enfin, Pierre, ils ont pas gardé des panneaux dans le jardin de la mairie.
Mais pourquoi pas?
Mais pourquoi? Mais vous êtes d'une naïveté.
Vous allez voir sur Vinted ou sur Le Bon Coin s'il n'y a pas des ventes de panneaux.
Non, mais évidemment qu'ils ne les ont pas gardés. Hein. Mais c'est sûr que non.
Bah, qu'ils se sont dit, bah, on anticipe.
Mais non.
Oh, bah oui.
Ça, on anticipe.
C'est bien connu que je veux dire que nos politiques, l'anticipation, c'est vraiment leur qualité première. Merci, Mathieu, en tout cas, de nous avoir alerté sur ce qui se passe dans l'heure. Merci, Mathieu. On est avec Romain également, qui nous appelle d'Averme, dans l'Allier. Il est commercial, donc il conduit beaucoup. Romain, bonjour.
Bonjour toute l'équipe.
Comment ça se passe dans l'Allier, Romain ?
Bah ça se passe qu'on sait plus où on va en fait. On sait plus à quelle couleur, à quelle limite il faut rouler. Ça devient aberrant en fait et ça devient, c'est plus un ras-le-bol en fait qu'autre chose. Parce qu'on sait pas, mais par contre on sait qu'on va se faire attraper par les radars et là on va pas se faire louper.
Bah donc faut avoir un peu de vigilance, Romain.
Oui, mais même quand on a de la vigilance, une fois quand la route elle est à 80, après elle passe à 90, après elle passe à 110, après elle passe à 80, c'est comme l'auditeur d'avant en fait, on sait pas. On sait pas en fait, et ça va coûter encore des millions d'euros pour changer les panneaux.
Ben évidemment.
Pour tout, au lieu de mettre cet argent pour faire des routes qui soient correctes, mettre des éthylotests dans les voitures pour justement combattre les problèmes d'accident, les choses comme ça. Il y a des trucs qui peuvent être trouvés qui sont très faciles, mais on préfère faire appel à des gens qui réfléchissent dans les bureaux à Paris au lieu d'avoir des maires qui sont sur les terrains, qui savent comment ça se passe dans leur territoire. Et c'est tout le temps le même problème, en fait.
Alors, Édouard Philippe avait été maire du Havre, hein,
Oui. Après, au bout d'un moment, faut juste avoir de la logique. On est dans un pic, il n'y a plus de logique, en fait.
Et alors, Romain, vous votez pour 80 ou 90 km/h partout ?
S'il faut rouler à la rigueur 90, comme ça, c'est comme avant. Et comme ça, au moins, on fait attention, on sait ce qu'on fait. Voilà. Mmh. Et juste, on a du bon sens, en fait, au volant. Voilà, c'est juste ça. Juste, on essaye de faire attention, comme dans la vie, comme partout, en fait. Mmh.
En fait, ce que vous dites, voilà, le problème, c'est l'anarchie et qu'il n'y ait pas la même vitesse partout, que ce soit 80 ou 90. Merci beaucoup, Romain, en tout cas, d'avoir été avec nous. On termine avec des messages, Martin.
Et Guillaume, quand je pars de Tours pour monter sur Chartres, sur la National 10, j'ai trois vitesses différentes en fonction du département où je me trouve. Je pars à 90, puis je passe à 80 et je retrouve encore du 90 en Eure-et-Loire. C'est le meilleur moyen de se faire flasher sur des petits excès de vitesse. Et puis Franck nous dit, entre 80 et 90, même mon GPS est perdu. Alors imaginez nos petites têtes.
Non mais ça c'est vrai que c'est un vrai problème, les GPS effectivement, quand ça change sans arrêt les panneaux. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, je vous vois sourire, Martin.
Oui, parce que c'est un grand oui, faut-il repasser aux 90 km/h? Oui à 88%, pas 90, 88.
Eh bien je pensais que ce serait plus, vous savez, j'ai une très légère déception sur ce sondage.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Et tout de suite, on va poursuivre Estelle Midi avec la promesse du jour. La promesse du jour, c'est celle de la députée du Rhône, Anaïs Beloas-Chérifi, candidate LFI à la mairie de Lyon, qui souhaiterait fermer le zoo de la Tête d'Or si elle est élue. Ce zoo, créé en 1858, est une institution à Lyon. Mais que lui reproche cet élu, Charles ?
En fait, elle répond à une demande de l'association PAS qui veut que les candidats s'engagent à fermer ce zoo. La candidate LFI est pour l'instant la seule à l'avoir fait. De son côté, le maire écolo de Lyon, hein, Grégory Doucet, a toujours refusé cette fermeture, puisqu'il qualifie ce zoo, je cite, de lieu de protection des animaux. Pourtant, un sondage IFOP mené l'an dernier montrait que 56% des Lyonnais sont pour la fermeture de leur zoo.
Oh
d'ailleurs, l'association PAS en a fait un combat dans plusieurs villes. À Besançon aussi, la candidate LFI s'est engagée à fermer le zoo de la Citadelle si elle est élue. Toujours avec les mêmes arguments avancés par l'association PAS, je cite, placer en captivité des animaux sauvages comme des girafes, des singes, des panthères est contraire à leurs besoins fondamentaux. À Lille, l'association a fait pression sur la mairie pour réclamer là aussi la fermeture d'un zoo. La mairie s'y est opposée, défendant un lieu de préservation et de conservation des espèces animales.
Alors, supprimer les zoos, pour ou contre? Jacques Legros, on les garde, les zoos?
Ben évidemment. Mais évidemment. Parce que, comme l'a rappelé Charles, ce sont des lieux de préservation. d'espèces qui ne sont pas forcément directement menacées ou dans l'immédiat, mais qui peuvent l'être un jour. C'est pas qu'un spectacle, un zoo. C'est aussi un lieu de reproduction, etc. Moi, je me méfie de l'anthropomorphisme ambiant de certains écolos qui pensent, qui projettent sur les animaux des sentiments et des réactions humaines. Un animal n'est pas un homme. Un animal a sa propre intelligence, sa propre sensibilité. Il faut les soigner, il faut les aimer. Mais de là à projeter sur eux des sentiments humains, c'est une connerie.
Oui, mais Jacques, on peut aussi se dire qu'un tigre est plus heureux dans la savane ou dans la jungle, je ne sais pas très bien, que dans un enclos.
Mais sauf s'il est né là. Sauf
s'il est né là,
s'il est né au zoo, déjà il sera bien soigné, il aura un vétérinaire à disposition, ce qui ne sera pas le cas dans la jungle, et s'il retourne dans la jungle, il se fait tuer immédiatement. Donc, vive les zoos.
La mairie de Lyon, c'est que par exemple les flamants roses, là ils les gardent, les flamants, vous savez, on est obligé de leur couper les ailes pour pas qu'ils s'envolent, etc.
Mais c'est sordide.
Mais ce qu'ils disent, c'est que ils les gardent et lorsqu'ils seront morts de leur belle mort, ils n'en prendront pas d'autres, en fait. Voilà, c'est
la moindre des choses.
Peut-être que le tigre, il faut le laisser dans son enclos, mais quand le tigre mourra, faut peut-être pas en racheter d'autres. C'est ça là.
Donc si on arrive à le protéger dans la nature, on n'a plus besoin du zoo, dans sa fonction préservation et reproduction. Mais pour le moment, c'est pas le cas.
Dans ces cas-là, l'argument, et je vous rejoins là-dessus, mais le seul argument, c'est que vous préservez la nature. Et les zoos servent à protéger les espèces en voie de disparition ou en difficulté, parce que dans leur environnement naturel, il est porté à...
Oui, Pierre, mais ça c'est nouveau, je veux dire. Sens environnemental qui consiste à protéger la nature et les animaux, c'est récent.
Les zoos, c'est fait pour que les petits citadins puissent voir des animaux.
C'est pas que c'est récent qu'il faut pas le soutenir. Je disais encore une fois, il faut à la fois s'insurger contre les zoos, et oui, je suis pour leur fermeture, il faut pas laisser en captivité des animaux sauvages. Alors, bien évidemment, pas les fermer immédiatement et relâcher les tigres qui n'ont jamais connu ce qu'était la jungle, évidemment, donc progressivement, et comme pour les flamants roses, on va pas en racheter, mais à côté de ça, faut assurer l'espace naturel des animaux. Faut arrêter la déforestation, faut protéger
des... Tu vas à Beauval, c'est magnifique, par exemple.
Encore une fois, oui, tous ces animaux qui sont nés en captivité, bien évidemment qu'il faut les protéger, les soigner et prendre soin. Mais progressivement, l'objectif prioritaire est de défendre l'espace naturel, lutter contre déforestation, protéger la nature.
Enfants, où est-ce qu'ils iront voir des hippopotames, des rhinocéros, des éléphants?
Il y a plein de choses qu'on voit pas dans la vie, et parfois on peut se le payer.
Excusez-moi, encore une fois, pardon, et si nous sommes européens, quel est notre intérêt à nous, européens, d'aller voir des animaux asiatiques ou africains? Et de la même manière, pourquoi un asiatique aurait-il besoin de voir un animal ou un ours polaire, par exemple?
Mais parce que ça existe.
Et si je suis un européen, quel est mon intérêt, moi, d'Européen, à voir un animal dans Paris.
Mais reste dans ton appart et voyage pas, alors.
Je voyagerai dans ces cas-là, si j'ai envie de voir ce qui se passe, si j'ai envie de voir la nature. Mais encore une fois, quand je vois des ours polaires enfermés en Chine dans des centres commerciaux, ou nous, en France, voir des tigres ou des lions, encore une fois, je le répète, je suis européen, je vois des animaux européens. L'asiatique, l'africain, le sud-américain.
Vous n'allez pas voir grand-chose. Hein.
C'est le message de Kader qui nous dit.
C'est la première fois que je suis d'accord avec Pierre Rondeau.
Un bulldog.
Kader nous écrit quand on veut voir des girafes, on va en Afrique. Des éléphants, on va en Asie. Il faut se déplacer. Moi, j'aimerais voir de mes yeux la lune et aller dessus. Et ben, j'ai pas les moyens. C'est comme ça. Donc, je regarde les matchs de l'OM et je m'en contente. Voilà ce qu'il nous dit.
Enfin, c'est quand même sympa d'aller voir des girafes aux autres Vincennes.
Mais attendez, mais c'est fou votre petit bonheur personnel.
Bon,
après les propos de Jacques, j'avais à moitié envie de le dévorer, bien évidemment, parce que je suis désolée, ça me gêne sur les zoos. Effectivement, c'est pas tout blanc ou tout noir, et il y a la préservation des espèces. Mais effectivement, comme dit Pierre, en fait, comment est-ce possible qu'il y ait des espèces qui soient complètement perturbées parce qu'elles vivent dans des environnements qui ne sont pas les leurs? Et je suis d'accord, vous aimez les girafes, j'adore les girafes, j'aurais rêvé aussi d'avoir une girafe dans le jardin, c'est pas possible. Un lion, tout ce que vous voulez. Le bien-être animal.
Vous étiez petite.
Pardon. Alors, je suis allée au zoo quand j'étais petite. Je suis même allée à Marineland, vous savez. Oui, Marineland, c'était à côté d'Antibes, où j'étais contente de voir des orques et de voir des dauphins, etc. Et puis un beau jour, je me suis réveillée en me disant, mais en fait, c'est atroce ce qu'on fait vivre à ces animaux. C'est-à-dire que pour ton petit plaisir, tu vas voir des orques qui font des jeux dans des bassins, parce que tu trouves ça beau et parce que tu aimes les animaux. Mais en fait, tout mon cheminement était très mauvais. Et après, j'ai été obsédée quand j'étais au primaire d'aller sauver et d'aller libérer tous les dauphins. Oui, les orques, les pingouins, etc. Mais vous vous rendez compte que là, donc pas très loin de Paris, au Jardin des Plantes, il y a il y a juste un orang-outan qui est captif depuis 53 ans.
Oui,
elle est dans une cage en verre. C'est absolument inadmissible pour le bonheur de vos enfants.
Elle a toujours vécu comme ça.
Et donc c'est normal que depuis 53 ans,
si tu la remets dans la jungle, elle va mourir direct.
Je ne veux pas qu'elle soit remise dans la jungle. Bah, évidemment, je veux que au minimum, elle ait un espace extérieur, qu'elle ait des arbres. Elle est dans une cage en verre. On est chez les fous là. C'est de la maltraitance animale.
Elle ne le sait pas.
Ni plus ni moins. Comment ?
Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas.
Vous allez là-bas toute la journée, elle tambourine contre les vitres. Et oui, ça, c'est pour le plaisir de nous qui voulons voir des orang-outans. Effectivement, il y a des espèces qui ne vivent pas en Europe. Et pour aller voir des espèces qui vivent en Afrique, eh ben tu dois te payer un safari. Moi, il y a plein de choses. J'adorerais voir l'Everest, mais je l'ai jamais vu pour l'instant. Eh ben c'est un cadeau que tu t'offres après des années de sacrifice peut-être. Mais tu peux pas dire que pour le petit bonheur de chaque personne, en fait, les animaux doivent s'adapter. Non. Donc, je suis désolée.
Là, après, les pandas à Beauval, ça leur a permis de se reproduire. Sinon, ils seraient jamais reproduits. Mais si on les avait pas mis dans un zoo.
Là, par exemple, pour les personnes qui regardent l'émission à la télé, on a des gens qui sont dans des cages en verre et on a un lion ou une lionne au-dessus.
Oui.
Ah, ça vous choque pas, vous ?
Mais
on est chez les fous, en fait. C'est un amusement, c'est un attrape-gogo, en fait.
Bah, non. C'est pas un attrape-gogo.
L'animal est pas maltraité.
Bah oui, à Beauval, les animaux, mais c'est non, magnifique.
Je vous parle pas là de Beauval. Et là, en plus, on parle de zoo urbain. Vous allez donc au parc de la Tête d'Or à Lyon, où vous allez, au Jardin des Plantes. C'est extrêmement bruyant. Ça ne ressemble ni de près, ni de loin à leur environnement naturel.
Oui, il y a plus de Beauval,
effectivement, c'est un petit peu différent. Mais les zoos urbains, c'est une horreur pour les animaux.
220 zoos aujourd'hui. Aujourd'hui en France, des messages, Charles sur le WhatsApp.
Jean-Christophe qui nous dit les zoos sont le seul endroit où on peut sensibiliser nos enfants à la protection, à la survie des animaux. Les voir en vrai, c'est important, c'est impactant plutôt que les voir à la télé ou en 3D.
Mais oui, c'est tellement prétentieux de penser comme ça.
Pourquoi ?
C'est important de les voir de mes propres yeux.
Bah oui, c'est important.
Mais attends, c'est plus comme impactant. Comme la dit Karine, regarde la télévision.
Mais ça n'a rien à voir. Enfin, il y a des très bonnes émissions animalières qui te sensibilisent.
Je n'ai jamais vu de mes propres yeux un lion, par exemple, et donc je ne suis pas sensibilisé à la cause.
T'as jamais vu un lion ?
Bah non, parce que...
T'as jamais allé au cirque ?
Non. Ah mais ça on peut en parler ça justement.
Mais évidemment, c'est un scandale.
C'est un scandale ça aussi.
Je vous rappelle que quand même normalement les espèces sauvages doivent être interdites dans les cirques en 2028.
Oui.
Sauf que la reproduction est interdite depuis 2023, mais en sous-main la reproduction continue et évidemment vu que ces animaux tu peux pas les remettre dans leur état naturel, et ben ça continue et c'est un scandale.
Alors
pourquoi un lion devrait passer dans des cerceaux ?
Je ne sais
pour
pas.
Votre plaisir ?
Non. Et pourquoi des chevaux devraient faire le tiercé ?
Mais non, mais je suis d'accord avec
vous. Touche pas au tuyau. Les animaux ne sont pas là pour le plaisir. Excusez-moi, pardon Karine, mais en parlant de bien-être animal, vous avez un gros chien dans un appartement. Bon bah
oui.
Et alors, peut-être que le gros chien, son milieu naturel, c'est pas votre appartement.
Sauf que en l'occurrence, j'ai pris un chien qui a une dépense qui est très faible. Ce n'est pas un husky qui a besoin de courir pendant des kilomètres. C'est un chien chat qui fait que dormir. Mais je suis d'accord avec vous que peut-être il serait beaucoup plus heureux dans un grand jardin, etc. Mais je le sort tous les jours pendant plusieurs heures et j'ai pris quand même un chien qui était adapté à une vie où il a besoin de très peu se dépenser.
Nous sommes avec Céline qui nous appelle de Saint-Jacques-de-la-Lande en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Céline.
Bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec nous. Céline, est-ce que vous pensez, comme Karine Galli ou Pierre Rondeau, qu'il faut supprimer les zoos ?
Alors, il ne faut pas les supprimer parce que malheureusement, nous sommes responsables de leur création. Et je suis tout à fait d'accord, pour notre bon plaisir. Mais c'est un fait, ils sont là. Et malheureusement, ce sont des animaux qui ne pourraient pas être remis dans leur environnement naturel par notre faute. Donc voilà, il faut assumer à un moment donné cette chose-là. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est en rouvrir des nouveaux. Ça, là-dessus, il faut arrêter. Il faut vraiment progressivement plutôt s'orienter vers tout miser sur les protéger dans leur environnement naturel. Moi, je partage...
Ça veut dire qu'on les verra plus, nous, Céline, alors ?
Alors, il y a une solution peut-être pour les voir. si vraiment on y tient. Alors soit on se déplace, mais là je suis la première à pas pouvoir le faire, ou on pourrait très bien aussi mettre en place des zoos interactifs. Pourquoi pas créer, du coup ce ne serait plus des zoos, mais des espaces où grâce à l'IA, des hologrammes, nos enfants pourraient avoir accès à ces animaux, virtuellement.
C'est l'avenir.
Oui, oui, non, mais ça j'entends, et effectivement, peut-être que c'est l'avenir. Après, ça n'a peut-être pas le même charme quand vous allez au zoo, vous donner à manger à des chèvres, tout
oui,
ça.
Mais pardon, excusez-moi, Estelle, je vous coupe, pardonnez-moi.
Non, vous avez raison.
C'est totalement égoïste.
Oui, mais vous avez raison.
Et puis vous
mais
avez vos zoos pour voir des chèvres, Estelle.
Bah, au départ,
vous allez au zoo pour voir des espèces animales qui sont rares.
Et j'allais pour voir des girafes.
Il faut quand même faire une vraie distinction entre, par exemple, Beauval, comme vous dites, et des zoos urbains. Moi aussi, j'ai envie d'aller à Beauval. Je suis franchement, non, mais je suis perturbée parce que d'un côté, je rêve de voir ces animaux, et d'un côté, je me dis c'est contraire à mes principes. Donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Mais les zoos urbains, vraiment, ça, c'est à bannir.
Merci Céline en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà, Céline qui est d'accord avec Karine et Pierre sur les zoos. Jacques Legros.
Vous raisonnez avec une sensibilité qui remonte à 20 ans par rapport à l'environnement, par rapport au bien-être animal. Quand on a une sensibilité qui remonte à plus de 70 ans, je suis désolé, c'était pas la même chose.
Oui.
Et on applaudissait aux animaux dans les cirques. Mmh. Et on applaudissait en allant aux zoos de Vincennes. Mmh. Et on était heureux de faire ça. Et
la question, c'est bien qu'on ait évolué, Jacques.
Et la question ne se posait pas.
Oui. Alors
je dis seulement, laissez au temps l'évolution arriver. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas créer de nouveaux zoos.
Oui.
On ne va pas les repeupler forcément. Mais vous voulez qu'en 20 ans, on ait tout bousculé, tout basculé.
Non, on veut qu'il y ait une évolution.
Moi, j'ai été élevé avec le respect des animaux, et j'entendais le boucher dans la maison d'à côté qui tuait la vache et elle gueulait, etc., etc. Et on allait les choisir dans les champs pour leur viande et tout.
Ça n'a rien
c'était
à
pas
voir.
Du tout le même rapport à la nature et aux animaux.
Mais Jacques,
accepter que ça ait pu évoluer.
Mais on est d'accord avec toi. Et le but, c'est pas de dire demain matin on ferme tous les zoos et tous les animaux ils se débrouillent. Il faut qu'il y ait une transition qui soit positive. Mais l'histoire de Nénette que je t'ai racontée, elle te choque. Et pourtant, tu es un homme qui a vécu avec l'évolution par rapport à la cause animale. Tout le monde est choqué.
On termine avec des messages. Charles, les résultats de notre sondage.
Jean-Philippe qui nous dit, avant de s'occuper d'interdire les zoos, l'État ferait mieux de s'intéresser à la maltraitance des animaux de compagnie aujourd'hui, au quotidien, et au commerce illégal d'animaux. C'est peut-être ça la priorité, nous dit Jean-Philippe. Cédric qui nous dit, beaucoup de zoos financent des campagnes de réintroduction des animaux dans leur milieu naturel. Ça sert aussi à ça. Ça permet de sauver des animaux, nous écrit Cédric. Et on vous a posé la question, supprimer les zoos, bonne ou mauvaise idée? C'est une mauvaise idée.
Voilà.
Vous êtes largement
et à évoluer sur la santé animale. Parce que ça apporte des connaissances aux vétérinaires.
Bien sûr,
ça je connais bien, excusez-moi, mais qui permettent aussi de mieux les soigner.
RMC, jusqu'à 15h.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.